Cultura en tus ondas.
Partez à la découverte de la culture des pays hispanophones avec les élèves de la section espagnole Bachibac du lycée Kiné.
Cultura en tus ondas.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Corentin. Bonjour Zoé.
Bonjour à tous, bonjour Corentin. Nous sommes élèves du lycée Edgar Quinet de Bourg-en-Bresse en classe de première Bachibac.
Le Bachibac est un diplôme qui permet l'obtention du baccalauréat français et du bachillerato espagnol.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de Frida Kahlo. Vous la connaissez peut-être par ses œuvres ou par son monosourcil si particulier. Mais dans cette chronique, nous allons vous en apprendre plus sur elle.
Radio B, les bonnes ondes.
Maria Magdalena Frida Carmen Kahlo y Calderón, plus connue sous le nom de Frida Kahlo, est une artiste peintre mexicaine du XXe siècle. Elle est née le 6 juillet 1907 et est décédée le 13 juillet 1954 au Mexique, dans sa maison de famille, la Casa Azul, qui signifie la Maison Bleue.
Frida Kahlo a une santé très fragile dès petite. Elle n'a que 6 ans et elle doit déjà se battre contre une poliomyélite. Concrètement, sa jambe et son pied droit s'atrophient peu à peu. Sa jambe s'arrête donc de grandir. Elle se retrouve alors avec une différence de taille entre ses deux jambes, ce qui lui vaut un grand nombre de moqueries à l'école. On l'appelle Frida la Coja, ce qui signifie Frida la boiteuse. Si on la moque, ça ne l'empêche pas d'être une très bonne élève. Elle est reçue dans l'une des meilleures écoles de Mexico. Son rêve est de devenir médecin.
Le 17 septembre 1925, Frida a 18 ans, quand le bus urbain dans lequel elle fait un banal trajet a un terrible accident. Beaucoup de passagers vont perdre la vie dans cet accident et Frida est gravement blessée. Une perforation de l'abdomen, de nombreuses fractures des membres, mais surtout sa colonne vertébrale est touchée, ce qui l'oblige à rester alitée pendant plusieurs mois. Ces longs mois couchés vont permettre à Frida Kahlo de découvrir une nouvelle passion, la peinture.
Elle commence par gribouiller sur ses plâtres. Ses parents vont ensuite lui offrir des couleurs. Elle peut alors aller plus loin dans ses dessins.
En 1926, elle fait sa première œuvre, son nom, Autorretrato, autoportrait. C'est la première où elle se présente. Il y en aura bien d'autres par la suite. Elle disait « Soy mi propia musa, je suis le sujet que je connais le mieux, le sujet que je souhaite améliorer ».
Elle réalise donc un très grand nombre d'autoportraits qui nous transmettent son histoire, ses états d'âme, sa souffrance physique, son isolement. Elle peint ses autoportraits grâce à un miroir installé au-dessus de son lit. La peinture devient son unique raison de vivre. Elle le dit elle-même « No estoy muerta y tengo una razón para vivir. Esa razón es la pintura. » Je ne suis pas morte et j'ai une raison de vivre. Cette raison, c'est la peinture.
Radio B,
les bonnes ondes.
En 1929, elle rencontre un peintre, lui aussi mexicain, Diego Rivera. Malgré la différence d'âge de 21 ans, ils vont s'aimer. Chacun admire le travail de l'autre. Frida se représente avec Diego dans « Frida et Diego » en 1931 pour lui montrer son amour.
Rivera, qui trouve le travail de sa femme incroyable, lui recommande d'expliquer les débuts de sa vie en peinture à travers un tableau. Elle peint alors « Mi nacimiento »,« Ma naissance » en 1932. Il représente un bébé sanglant. Ce tableau a une double signification, sa propre naissance avec sa santé fragile et le fait qu'elle ne puisse pas être mère. Elle peint aussi la columna rota, la colonne brisée. Ici, elle se représente le corps ouvert avec une colonne vertébrale métallique. Ce tableau montre donc ses souffrances intérieures, morales et physiques suite à son accident. C'est l'un de ses tableaux les plus connus.
Le couple s'aime, mais Frida Kahlo a du mal à accepter les adultères de son mari qui a d'autres femmes. Elle l'explique dans son tableau nommé « Quelques petites piqûres » de 1935 où on la voit mourante près de Rivera et couverte de sang. Elle utilise la peinture pour montrer sa peine, mais elle aussi a vécu une aventure avec Léon Trotsky, un grand révolutionnaire du parti communiste qu'elle accueille avec son mari à la Casa Azul lorsqu'il est destiné à l'asile politique.
Frida Kahlo et Diego Rivera divorcent en 1939. Marquée par cet événement, la peintre réalise un tableau appelé « Autorretrato con collar de espina y colibri », autoportrait au collier d'épines et colibri, en 1940, où on la voit étranglée par les épines, montrant son désespoir face à cette rupture.
En 1940, le couple se reforme et Rivera épouse une nouvelle fois Kahlo. La peintre lui dit « J'ai eu deux accidents dans ma vie, Diego. Le bus et toi, tu es le pire. He tenido dos grandes accidentes en mi vida, Diego. El autobús y tú eres el peor. » Malgré ça, elle l'aimera toujours passionnément, comme elle le montre dans « Diego dans mes pensées », où celui-ci semble toujours être omniprésent.
Cette femme, faible dans le corps mais très forte d'esprit, s'investit dans la politique et la vie de son pays.
En dehors de la peinture, l'artiste est très engagée en politique. Elle milite au Parti communiste mexicain. Frida revendique l'égalité des sexes et s'affirme contre les valeurs machistes, égoïstes et conservatrices de son pays. Elle crée un groupe féministe pour lutter et discuter autour du sujet de la condition des femmes.
Frida Kahlo se revendique bisexuelle pour lutter contre l'homophobie et pour accepter les femmes telles qu'elles sont. Dans une société qu'elle veut libre et sans tabou à travers le tableau « Autoretrato con pelo corto » des 1940, autoportrait aux cheveux courts.
Elle ne s'investit pas uniquement en politique, mais également dans la culture. En 1942, elle est nommée membre du Seminario de Cultura Mexicana, ce qui lui donne le rôle de représenter, diffuser et conserver la culture mexicaine. Ce séminaire valorise les échanges entre toutes les parties du Mexique, des arts, de la science et de l'humanité. Il organise des concerts, des expositions et beaucoup d'autres événements dans le but de faire connaître cette culture mexicaine.
Radio B, les bonnes ondes.
Et maintenant, nous allons accueillir Philippe Merlo-Mora, professeur à l'Université Lyon 2, spécialiste d'art hispanique et fondateur de la Villa Hispanica, qui se trouve sur la commune de Coni. Il va nous éclairer sur certains points.
Pourquoi la peinture de Frida Kahlo est-elle si inspirée de sa vie et d'elle-même ?
Cela amène à deux réflexions. La première, du point de vue historique, pourquoi des portraits ? Il faut savoir qu'elle s'est mise à la peinture. C'est une personne qui est autodidacte, qui ne pensait absolument pas être artiste. Et donc, elle a un accident, comme tout le monde le sait. Et elle doit être alitée pendant des mois, des mois, des semaines et des semaines. Et son père, qui était photographe, décide donc de lui faire un lit à baldaquin et en haut de ce baldaquin de placer un miroir. Avec ce miroir, donc, ce qu'elle voit, c'est elle sans arrêt dans son lit et elle va donc se peindre elle-même, faire donc des autoportraits. Alors ça, c'est la première réflexion que l'on peut mener, comme je vous le disais, pour l'aspect autobiographique. Le deuxième aspect par rapport à l'autoportrait, puisqu'on parle d'autoportrait, on parle de portrait. Et pour cela, il faut se référer à Pommier, P-O-2-M-I-E-R, qui a écrit La théorie du portrait. Et il précise bien que pour parler de portrait, il faut qu'il y ait uniquement que le buste. À partir du moment où il y a plus que le buste, cela va instaurer donc un dialogue entre le portrait et ce qui est autour. Or, pour les autoportraits de Frida Kahlo, ce qui est autour est souvent fondamental. Elle s'entoure elle-même, par exemple, d'animaux, des singes, des perroquets, puisque ce sont des animaux de la faune donc mexicaine qui l'entoure, et même d'autres, par exemple des chiens sans poils, des esquinkles, ce qu'on appelle des esquinkles, qui sont des chiens typiques que l'on connaît depuis l'époque mexica, aztèque donc. Et elle s'entoure aussi de végétaux, notamment de fleurs typiques du Mexique ou de grands palmiers, et cela va instaurer donc un dialogue entre elle-même qui, grâce à cet environnement, se localise au Mexique, très particulièrement donc sur l'altiplano de Mexico.
Comment peut-on définir le style de la peinture de Frida Kahlo ?
Elle a été influencée, bien sûr, au départ, par les surréalistes qu'elle a pu rencontrer, avant même, donc, par les photographies de son propre père, et par la suite, donc, par les surréalistes qu'elle a pu rencontrer grâce à Diego Rivera. Pour la valeur expressive, bien sûr, ce sont les émotions. C'est pour ça que de nos jours, c'est une peinture qui attire énormément l'attention, puisque ce sont des émotions extrêmement profondes suite aux différents accidents qu'elle a pu vivre, accidents de la vie, accidents donc dans ce tramway qui l'a ramené du centre-ville jusqu'à Coyoacán, jusqu'à sa maison, la Casa Azul. Et ce sont surtout des émotions liées à la douleur, au mal-être aussi, au mal-être psychologique, mais aussi à l'espoir. Et ce sont les grandes émotions que tout un chacun peut vivre que nous allons retrouver à l'intérieur de ces portraits, de ces autoportraits et donc de cet aspect autobiographique comme vous le mentionniez.
Cette peinture si particulière à Frida Kahlo peut-elle être rapprochée de celle d'un autre artiste ?
J'aurais tendance à dire non. Parce qu'elle n'a pas de style propre. Comme je vous l'ai dit, elle est autodidacte, donc elle va s'inspirer d'un petit peu tout le monde. Si on doit parler de l'autoportrait, le seul à avoir fait dans l'histoire de l'art autant d'autoportraits de lui-même, c'est Rembrandt. Donc il y a Rembrandt et Frida Kahlo, où on a énormément de portraits de chacun de ces artistes réalisés par eux-mêmes. Ensuite, pour les autres artistes dont elle pourrait s'inspirer, bien sûr qu'elle va avoir un dialogue favorisé avec Diego Rivera. Mais c'est un dialogue qui est bien particulier. Alors, Les rapports qu'il y a entre Diego et Frida sont extrêmement conflictuels. C'est l'amour-passion sans cesse à travers toute leur vie. Ils vont se déchirer sans cesse aussi. Elle a un style à elle. Le rapprocher d'autres, bien sûr, l'influence de la peinture naïve, l'influence de la peinture surréaliste sur certains aspects, et l'influence donc des artistes qu'elle a pu rencontrer, notamment de Diego Rivera.
Merci Philippe Merlot-Mora, professeur à l'Université Lyon 2, spécialiste d'art hispanique. Monsieur Merlot organise une conférence sur le couple Frida Kahlo et Diego Rivera le dimanche 10 avril à 18h à la Via Hispanica qui se trouve à Cogny, près de Villefranche-sur-Saône.
Radio B,
les bonnes ondes.
Nous allons maintenant interroger Yannette, notre assistante d'espagnol au lycée Quinet de Bourg-en-Bresse et qui est mexicaine. Bonjour Yannette, en tant que mexicaine, qui est Frida Kahlo pour vous?
Bonjour tout le monde, bien. Et Frida Kahlo, pour moi, c'est tout un symbole pour la culture mexicaine pour plusieurs raisons. Déjà, c'était une femme qui a encouragé beaucoup d'autres femmes dans cet mouvement féminisme à l'époque. Et quand vous avez déjà mentionné, Frida Kahlo était vraiment une femme qui a commencé à s'interroger le rôle de la femme et pour la culture mexicaine. Elle a complètement essayé de casser tous les stéréotypes et de la femme mexicaine à cette époque-là, qui était tout le temps à la maison, à avoir des enfants et s'occuper des hommes. Donc, d'un autre côté aussi, elle a transformé et elle a récupéré toute l'histoire des peuples autochtones, indigènes du Mexique. Et là, c'est super important pour notre histoire. Et surtout aussi, c'est tout un symbole d'espoir pour nous, parce que c'est dire, connaître son histoire, c'est dire pour nous que malgré tous les obstacles et les choses de la vie, on peut quand même réussir. On peut faire des choses incroyables, transformer la douleur et la souffrance en art, créativité et inspiration.
Merci Annette, assistante d'espagnol au lycée Quinet.
Vous écoutez Radio B.
En août 1953, la santé de Frida s'affaiblit. On lui ampute la jambe, ce qui la plonge dans une dépression sévère. Et le 13 juillet 1954, Frida Kahlo s'éteint suite à une grave pneumonie, 7 jours après l'anniversaire de ses 47 ans. Son dernier tableau marquera la fin de sa vie. Il se nomme « Viva la vida », qui signifie « Vive la vie ». On reconnaît Frida dans ses paroles, une femme battante malgré toutes ses souffrances.
Si vous ne connaissez pas les tableaux cités, vous aurez peut-être envie de les chercher sur Internet pour les voir. En tout cas, c'est ce que nous espérons.
Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons une bonne journée.
Cultura en tus ondas.
Partez à la découverte de la culture des pays hispanophones avec les élèves de la section espagnole Bachibac du lycée Quinet.
Cultura en tus ondas.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Noam.
Bonjour Maïssa et bienvenue sur Radio B, c'est le moment de la rubrique Culturas en tus ondas.
Noam et moi sommes actuellement lycéens au lycée Quinet de Bourg-en-Bresse et nous avons la chance d'être dans la section Bachibac. Dans notre formation, nous bénéficions d'un apprentissage poussé de la culture hispanique et aujourd'hui, grâce à Radio B, nous allons vous présenter un peintre emblématique de cette culture, Diego Rivera.
Radio B, les bonnes ondes.
Diego Rivera est un peintre mexicain, né le 18 décembre 1886 à Guanajuato et mort le 24 novembre 1957 à San Angel à l'âge de 70 ans. Il est notamment l'époux de Frida Kahlo, peintre que Zoé et Corentin vous ont présenté plus tôt.
Rivera est un homme qui a voyagé à travers le monde. Il a donc pu observer différentes manières de peindre. Il était aussi très investi dans la politique, ce qui a eu énormément de répercussions sur son style et sur les thèmes de ses œuvres. Un de ses voyages les plus marquants est celui qu'il mène en Italie. Dans ce pays, il découvre le peintre Giotto, le précurseur de la Renaissance italienne. Ses fresques et ses peintures murales qui existent encore aujourd'hui semblent marquer profondément Diego Rivera. Ce voyage en Italie marque un tournant dans sa formation artistique. Il va épuiser la manière de réaliser ses fresques murales, qui feront plus tard sa renommée. Durant toute sa carrière, il a expérimenté plusieurs styles, tels que le cubisme et le réalisme. Mais le cœur de son œuvre est le muralisme. Alors Noam, peux-tu nous en dire un peu plus?
Rivera est surtout connu pour ses œuvres muralistes, car il a été considéré comme l'un des plus grands maîtres de ce courant artistique. Le muralisme apparaît durant les années 1920 et à la suite des revendications de la Révolution mexicaine de 1910. Il est articulé autour d'une idée, construire une identité nationale pour unir les différents secteurs de la société mexicaine, marquée par des profondes inégalités sociales de l'époque, et en particulier les inégalités éducatives et culturelles. C'est donc un courant initié par l'État et principalement José Vasconcelos, secrétaire de l'éducation publique. Maïssa, peux-tu nous éclairer sur les différentes caractéristiques de ce courant et donc de l'œuvre de Rivera ?
Ce mouvement, comme son nom l'indique, est centré sur le mur qui donne une monumentalité au concept artistique. Ces grandes fresques murales sont observables dans différents lieux clés du Mexique. Elles sont exposées notamment dans les lieux publics afin que tout le monde puisse les voir. Les thèmes abordés par Rivera sont l'histoire de son pays, son évolution mais surtout la colonisation. Ces thèmes font donc de son œuvre un étendard du peuple mexicain. Le libre accès aux œuvres est donc aussi une constituante essentielle de ce courant qui permet même aux personnes qui ne savent pas lire, comme les plus pauvres ou les populations indigènes, de connaître l'histoire de leur pays. L'histoire mexicaine devient donc, grâce à la peinture de Diego Rivera, accessible à tout le monde et à toutes les classes sociales. Elle a une vraie valeur didactique.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Yanette, assistante de langue espagnole au lycée Kiné de Bourg-en-Bresse. Yanette est mexicaine et étudie les arts de son pays tels que la peinture et la littérature. Elle sera donc plus à même de nous parler concrètement de la place de l'œuvre de Diego Rivera dans la culture populaire de son pays.
Bonjour Yanette, pouvez-vous nous expliquer en quoi, selon vous, l'œuvre de Diego Rivera est importante aux yeux du peuple mexicain ?
Bonjour tout le monde, bien, et pour moi, et comme mexicaine, la peinture de Diego Rivera est très importante pour l'histoire du pays, et surtout le mural, parce que, comme vous avez déjà dit, le mouvement du muralisme a aidé à raconter l'histoire du pays. Et ça vient de l'époque préhispanique jusqu'à la révolution mexicaine. Du coup, on peut voir, on peut admirer toute l'histoire du pays et la colonisation, aussi tous les l'art préhispanique aussi. Et donc, c'est vraiment l'or pour tout le monde, pour toutes les classes sociales. Et surtout, et le muralisme et l'œuvre de Diego Rivera nous a aidés à avoir l'accès à l'art. Et ce qui voulait le muralisme, il faut se rappeler que l'art était seulement accessible pour les classes sociales un peu riches. Donc, et le fait d'avoir une peinture, un mural, fait que tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas l'amener chez toi. Donc, tout le monde peut aller voir l'histoire, et surtout parce qu'à l'époque, et les plus pauvres ne pouvaient pas étudier. Donc, ils ne connaissaient pas vraiment l'histoire de notre pays, et les rendre accessibles, c'est vraiment un grand avantage pour s'identifier comme Mexicain, pour s'identifier dans un tableau. Tout le monde pouvait s'identifier, même les personnes autochtones. Et quand ils regardaient une œuvre de Diego Rivera, pouvaient se voir eux-mêmes et admirer et dire « Vous êtes là, on vous reconnaît et vous êtes important pour notre culture, pour notre histoire. »
Merci Yanette d'avoir partagé votre point de vue ancré dans vos origines.
Vous écoutez Radio B.
L'État mexicain a initié la fresque « La Historia de México » qui se trouve au Palais National de la ville de México. Cette œuvre peinte entre 1935 et 1939 retrace l'histoire du Mexique et surtout celle de la ville de México depuis son début, c'est-à-dire l'époque des Aztèques. Ce peuple s'était installé dans cette zone de la capitale actuelle du Mexique parce qu'il croyait que c'était un lieu choisi par leur dieu, Quetzalcoatl. Les ruines de la capitale aztèque sont donc sous la ville de México.
Cette peinture retrace aussi l'époque de la colonisation initiée par Hernán Cortés, célèbre conquistador espagnol qui a envahi le Mexique en 1519. Cette époque est dépeinte comme douloureuse par Rivera dans ce tableau car la vérité est que les Espagnols ont persécuté le peuple aztèque en bafouant sa culture, en le soumettant à l'esclavage, en violant les femmes et en les forçant à se convertir au catholicisme. Le mural dénonce tous ces faits. Cette fresque gigantesque témoigne aussi de la guerre d'indépendance, une guerre qui va durer de 1810 à 1821 et au terme de laquelle le Mexique devint indépendant du royaume d'Espagne et de l'Empire espagnol.
Diego Rivera a réalisé plus de 120 fresques entre 1922 et 1928 pour le projet « Ballade de la révolution prolétarienne » dans lesquels il traite des sujets divers et variés liés à la société, la culture et l'histoire de son pays, des thèmes détaillés précédemment. Son œuvre témoigne donc de son engagement en tant qu'artiste, que mexicain et aussi en tant que communiste. Elle atteste aussi de sa fascination et de sa fierté pour l'histoire de son pays.
Ces différents projets ont donc permis à Rivera de se faire connaître et de réellement s'imposer dans le milieu artistique à l'échelle mondiale.
Mais l'œuvre de Rivera n'est pas limitée au muralisme. Aujourd'hui, nous avons avec nous un spécialiste de la peinture et de la littérature hispanophone, enseignant, chercheur et professeur agrégé des universités, Philippe Merlo-Mora, qui va nous en dire plus sur l'œuvre de Rivera.
Alors, il est vrai que Diego Rivera est surtout connu pour ses peintures et ses fresques muralistes. En fait, il faut savoir qu'il est passé par, comme tout grand peintre, par les périodes académiques. Il est passé par l'Académie de San Carlos, donc qui est l'Académie des Beaux-Arts de Mexico. Et comme tout bon Mexicain de bonne famille et artiste, il fallait faire le voyage en Europe pour aller, un, découvrir l'Europe et, deux, découvrir les peintres européens. Donc, il va arriver en France, en Espagne, il va aller aussi en Italie, il va aller en Belgique. Et il va avoir en France notamment une première période que l'on connaît moins de lui, qui est la période cubiste. Donc il va peindre, par exemple, Marinero, le marin, ou il va peindre d'ailleurs une vista de Toledo, une vue de Tolède, qui sont parfaitement cubistes. Il va les exposer à Paris. Lors de son passage à Paris, lorsqu'il va rencontrer les cubistes, il va fréquenter Picasso. Picasso trouve que ce qu'il fait n'est pas si mal que ça. Mais par contre, c'est Reverdy qui est le critique des cubistes et qui dit que Diego Rivera n'a absolument pas compris ce qu'était le cubisme. Diego est très vexé et va laisser tomber le cubisme. En fait, malheur, c'est dommage pour les cubistes, mais ça a été un très grand bien pour les muralistes, puisque grâce à cela, après son voyage en Italie, il va découvrir les grandes fresques du Giotto en Italie, et il va trouver que c'est vraiment la technique qui lui convient parfaitement. Cela d'autant plus que il est juste appelé en 1920, à la fin de la Révolution mexicaine, par le gouvernement mexicain, par le ministre de la Culture de l'époque, et le ministre de l'Éducation, plutôt, qui souhaite donc alphabétiser le grand peuple qui est analphabète au Mexique, grâce à des grandes fresques. Et là maintenant, il sait faire, il a vu la technique de la fresque donc en Italie et il peut l'appliquer maintenant au Mexique. Donc il va rentrer avec une thématique révolutionnaire, bien sûr, sur la révolution mexicaine, mais avec aussi une technique qui pour lui est révolutionnaire, puisque c'est la technique de la fresque qu'il a pu adapter à sa propre technique picturale.
Merci de votre réponse. Pouvez-vous nous dire quelle influence a eu Diego Rivera sur le travail de Frida Kahlo ?
Il existe un véritable dialogue entre l'œuvre de Diego Rivera et celle de Frida Kahlo. Tout simplement parce qu'il y a eu des moments de déchirure dans le couple. Et souvent, il y a eu notamment un échange non pas épistolaire, mais à travers des tableaux. Diego, en fait, a trahi Frida en allant coucher avec sa sœur, avec la sœur de Frida. Et bien sûr, ça a été non seulement une trahison parce qu'il allait avec une autre femme, mais en plus, d'autant plus marquante qu'il allait avec sa propre sœur. Donc ça a énormément marqué Frida. Et ils se sont répandus par, non pas par lettres interposées, mais par petits tableaux interposés, notamment un qui est une sorte d'ex-voto. Alors les ex-voto, vous savez, ce sont ces petits tableaux que l'on met dans les églises pour remercier tel ou tel saint d'être intervenu pour la guérison de telle ou telle maladie. Et là, au contraire, c'est de manière très ironique que Frida répond à Diego suite à cette trahison, puisqu'elle elle va peindre un ex-voto d'une toute petite taille qui s'intitule « Por unos cuantos piquetitos », et qui, c'est-à-dire « à cause de quelques petits coups ». En fait, ce sont des coups de poignard et qui font allusion à un fait divers qui s'était passé à Mexico où un homme avait tué son épouse, c'était un féminicide, donc en la transperçant d'une centaine de coups de couteau. Et Frida va illustrer à travers cet ex-voto ce fait divers, mais aussi, elle illustre de manière symbolique les conséquences que cette trahison de Diego avec la sœur, avec sa propre sœur, a pu avoir sur elle-même. C'est-à-dire, elle s'est sentie comme transpercée par une multitude de coups de couteau. L'influence qu'avait pu avoir Frida sur les fresques de Diego, elle n'est pas négligeable puisque souvent dans des fresques de Diego, Diego apparaît un autre portrait enfant, et il fait apparaître notamment dans la grande fresque de la Alameda le personnage de Frida qui le porte dans les bras, donc qui porte Diego Rivera dans les bras. Donc vous voyez, lui-même intègre Frida dans ses propres tableaux. L'influence a été vraiment dans les deux sens.
Merci beaucoup Monsieur Merlomora.
Radio B, les bonnes ondes.
Enchaînant aller et retour entre le Mexique et les États-Unis pour différents travaux artistiques engagés, dont des séries de fresques polémiques et parfois censurées, Diego et Frida construisent une maison-atelier très atypique dans le quartier de San Angel, à Mexico.
En 1942, ils décident de construire un bâtiment dans un style mélange aztèque regroupant toutes ses œuvres. Ce même bâtiment deviendra un musée après la mort de son concepteur. En 1953, il réalisera sa dernière fresque pour un hôpital de Mexico qui s'intitulera « Le désir du peuple d'être en meilleure santé ». Enfin, après de nombreux problèmes de santé consécutifs et malgré de vaines tentatives de guérison en Union soviétique, Diego Rivera trouvera la mort le 24 novembre 1957. En dépit de son souhait qui était de faire reposer ses cendres auprès de celles de Frida Kahlo, son corps sommeillera à Mexico, au Panthéon des Dolores.
Rivera a donc été un symbole du muralisme, de l'art mexicain, mais surtout du Mexique. Merci Maïssa et merci chers auditeurs d'avoir partagé ce moment avec nous.
Merci Noam, ça a été un plaisir de découvrir ce peintre avec vous, chers auditeurs. Bonne journée à tous sur les ondes de Radio B.
Cultura en tus ondas.
Partez à la découverte de la culture des pays hispanophones avec les élèves de la section espagnole Bachibac du lycée Kiné.
Cultura en tus ondas.